Faso IAFA, un programme de Studio IAFA.
Nous sommes samedi et comme tous les samedis sur l'ensemble de nos radios partenaires à travers le Burkina Faso, notre rendez-vous pour Faso IAFA, l'émission humanitaire de Studio IAFA. Bonsoir à toutes et à tous. Fuir les balles, vivre dans les déchets, la bravoure des femmes déplacées internes de Boromo est le titre du reportage de cette semaine. Dans ce premier volet, nous découvrirons l'histoire poignante de ces déplacés qui, loin de ce gel, ont trouvé un moyen de survivre tout en contribuant à la protection de l'environnement. Comment allier santé et travail dans cet environnement précaire? Dr Karim Kambassré rappelle que la prévention, notamment par le port d'équipements adaptés et un suivi médical régulier, est essentielle pour minimiser les risques liés à ces activités. Nafou encourage Momo à participer à la collecte des déchets plastiques, un geste éco-citoyen important, mais ils comprennent vite que la sécurité et l'organisation sont essentielles dans ce type de travail. Ils envisagent même de solliciter l'aide des autorités pour améliorer la sécurité et obtenir des équipements de protection. Nous terminerons comme d'habitude avec musique live et c'est l'artiste Ousmane, à l'état civil Ousmane Compaoré, notre invité de la semaine. Yafa chez vous, la paix chez vous, je suis Aimé Roland Ouedraogo, le aimé des aimés, bienvenue à toutes et à tous. Chassées par l'insécurité dans leur village de Gorgagui dans le Sahel, elles ont trouvé refuge à Boromo, dans la boucle du Moon. Depuis 5 ans, ces femmes déplacées internes font preuve d'une bravoure exemplaire pour survivre. À menu, elles fouillent les poubelles chaque jour pour collecter les déchets plastiques, des bouteilles ou des canettes qu'elles revendent à bas prix. Une activité épuisante, mêlant désespoir et courage, mais aussi un geste éco-citoyen. Entre résilience et précarité, ces femmes montrent une force remarquable face à leurs nouveaux défis. Fuir l'horreur des attaques armées et se retrouver dans des sacs à problèmes. Un reportage signé à Wamonila Toutankwano avec la voix de Micheline Kigma.
À Boromo, au secteur 6, au milieu des habitations, sont érigées des tentes de fortune fabriquées avec des bâches et des morceaux de tissu récupérés dans des poubelles. C'est ici le fief de Poryanga Sawadgo ainsi qu'une dizaine de femmes. L'endroit ressemble à un dépotoir à ciel ouvert du fait de piles de sachets entassées ça et là. Chaque matin dès l'aube, elle sillonne les rues de Boromo à la recherche de déchets recyclables. Elle fouille caniveau, décharge, marché et gare routière.
Des sachets, des canettes ou de vieux objets en plastique, nous collectons tout cela avant de les trier pour aller vendre. Avec l'argent de la vente, on achète du maïs et des condiments.
Quand elles ont été obligées de partir de Gorgagui, leur village, par des radicaux, jamais elles n'auraient pu imaginer qu'elles fouilleraient des poubelles pour survivre. Pourtant aujourd'hui, confrontées à la misère, elles cherchent dignement leur pitance quotidienne en fouillant dans toutes sortes d'immondices qui dégoûteraient plus d'un.
Si tu dis que tu as honte de ramasser des sachets, c'est que ton enfant ne pleure pas de faim. On est obligé de se promener pour ramasser ça, pour avoir à manger. Quand on était chez nous, on faisait la maraîchiculture, l'élevage aussi. Moi-même, je faisais des formations, mais voilà ce à quoi nous sommes réduites aujourd'hui.
Depuis leur déplacement, la vie ne semble pas facile pour Poryanga et les autres femmes. Malgré cela, elles gardent le sourire et la tête haute. Alimata Sawadko revenait de la ville avec un sac à moitié plein de sachets plastiques qu'elle transportait sur son dos.
On peut assembler les sachets pendant 2 ou 3 mois pour au final se retrouver avec 2000 ou 3000 francs. Avec ça, on peut avoir 3 plats de maïs pour faire la bouillie pour les enfants en attendant d'avoir encore quelque chose. Tout ce que nous possédons actuellement nous vient des poubelles. Les habits, c'est là-bas que nous les ramassons, de même que les chaussures que nous portons. On n'a rien à nous, c'est vraiment la misère.
Alimata, tout comme les autres femmes du camp, a les ongles noircis et incrustés de saleté. Pogyanga, visiblement moins timide que les autres femmes, nous explique qu'elle fouille les décombres les mains nues. Une pratique qui comporte de nombreux risques pour leur santé.
C'est que nous allons tomber malades parce que nous n'avons pas de gants pour nous protéger. On fouille dans toutes les poubelles sans aucune protection. Le plus important pour nous, c'est d'avoir de quoi manger. Le reste là, on ne s'en préoccupe pas trop.
Dans un autre quartier de la cité de l'éléphant vit Ousmane Diallo. Il est collecteur de déchets recyclés depuis 20 ans maintenant. Chaque jour, de nombreuses personnes déplacées viennent lui vendre les déchets qu'elles ont ramassés. Pourtant, en cette période de saison pluvieuse, il avoue que les déchets ne lui sont pas vraiment utiles.
On achète les sachets avec eux. Parfois, ça nous est profitable. D'autres fois, non. Actuellement, à vrai dire, ça ne nous sert pas, mais on achète par pure empathie. Parfois, quand ils viennent vendre et que tu dis que tu ne veux pas acheter, ils se mettent à pleurer.
Au-delà d'un moyen de survie, la vente de sachets plastiques est devenue un symbole de résilience pour des personnes forcées au déplacement et qui ne veulent pas rester les bras ballants. Si ces femmes bénéficiaient d'un appui matériel et de formation, elle pourrait contribuer de façon durable à préserver l'environnement tout en se protégeant elle-même.
La fille qui bat.
Bonsoir, Dr Karim Kombasri. Nous venons tout de suite de suivre un reportage sur le ramassage des déchets plastiques. Quels sont les principaux risques associés au ramassage et au tri des déchets plastiques?
Les principaux risques, je vais peut-être aborder ça sous l'angle sanitaire. Il faut dire qu'il y a les risques des blessures physiques, et en ce sens qu'on peut avoir des piqûres, des coupures.
Des objets tranchants.
Des objets tranchants ou bien dangereux, d'accord, et qui sont présents dans ces déchets-là. Et aussi, on peut avoir une exposition à des agents qui sont biologiques avec le contact des déchets qui sont en décomposition, ça peut entraîner des infections. Ça, c'est un risque. Le troisième risque, c'est beaucoup plus un risque chimique. Donc, dans ce risque chimique, c'est lié à la manipulation des déchets. Avec le produit ménager, voilà, tout ça, ça peut entraîner des problèmes de santé ou bien même les équipements électroniques qui n'ont pas été bien triés. Et ça peut créer des risques sanitaires.
Qui parle de ramassage des déchets parle d'équipement. Quel équipement de protection sont les plus efficaces pour les collecteurs de déchets?
Je pense qu'en termes d'équipement, il faut voir de façon holistique, il faut regarder les vêtements de travail. Par exemple, vous avez les salopettes, les vêtements qui sont très bien adaptés, même si une longue distance qu'on puisse identifier la personne, ça c'est important, qui couvrent tout le corps. Et aussi, vous avez les chaussures de sécurité. Aussi, vous avez les gants de protection qu'il faut utiliser. Mais ce sont des gants qui permettent de résister aux déchirures, aux coupures, aussi aux expositions chimiques. L'autre élément, c'est les lunettes de protection. Parce que vous savez, ce sont des endroits où vous pouvez avoir des éclaboussements, en tout cas des choses qui peuvent rentrer au niveau des yeux. Voilà, et puis créer d'autres problèmes. Une protection auditive au niveau de l'oreille. On peut mettre des éléments pour boucher, surtout contre le bruit. Et en dernière position, il y a les masques. Il faut l'utiliser. On peut avoir des objets, des fluides et autres qui peuvent rentrer dans la bouche et puis créer d'autres problèmes.
Parlant toujours de déchets, quels symptômes peuvent indiquer une infection contractée lors de la collecte?
Oui, il faut que le collecteur soit de façon permanente sur les sites de collecte. Et là, à l'issue de ça, on peut regarder si la personne, par exemple, a une infection cutanée, une rougeur, des gonflements, voilà, sur la peau, qui a été en contact surtout avec les déchets contaminés. Mais on peut aussi avoir des symptômes gastro-intestinaux, c'est-à-dire des douleurs de ventre, des nausées, des vomissements, la diarrhée même, voilà, causée par les bactéries qui sont présentes dans les déchets alimentaires. Et aussi, vous avez des problèmes respiratoires. Les problèmes respiratoires, c'est beaucoup là, tous les difficultés respiratoires, les irritations des voies respiratoires qui peuvent en fait venir de l'inhalation des produits que nous avons. Si nous ne portons pas des masques, c'est possible que nous inhalons ces produits-là et ça va créer des problèmes au niveau respiratoire. L'autre élément, c'est peut-être la fièvre, le malaise général qui peut être un signe d'infection systémique. C'est-à-dire une infection qui passe par la peau ou bien un organe qui rentre dans le sang peut entraîner un malaise ou une infection.
On dit souvent que prévenir vaut mieux que guérir. Quels examens médicaux réguliers recommandez-vous? vous aux personnes impliquées dans la collecte des déchets?
Et je pense que pour les examens médicaux, en fonction du type d'infection, on va demander un certain nombre d'examens. Mais déjà, il faut savoir qu'on fera un bilan général qui va inclure des examens de sang, des maladies, des examens pour regarder un peu le fonctionnement du foie et puis d'autres éléments. Ensuite, on va regarder la pression artérielle, le poids de la personne pour surveiller, par exemple, les risques de maladies cardiovasculaires. Maintenant, de façon spécifique, on va regarder au niveau dermatologique. S'il y a des examens à faire liés aux irritations et tout ça, au niveau pulmonaire aussi, on va regarder. Tantôt, j'ai dit, il peut y avoir des infections pulmonaires. En fonction du bilan standard, du bilan initial, on pourra demander d'autres bilans.
Y a-t-il des vaccins essentiels pour ces genres d'activités?
Oui, je pense que de façon générale, on recommande de faire au moins le vaccin contre l'hépatite B, la grippe dans certains pays, et puis bon, peut-être le tétanos.
Dr Karim Kambasri, pour ces précieux conseils, merci bien.
Merci à vous.
Momo et Nafou.
Nafou encourage Momo à participer à la collecte des déchets plastiques, un geste éco-citoyen, mais elle lui fait aussi comprendre l'importance de la sécurité et de l'organisation de ce type de travail. Ils envisagent de demander de l'aide des autorités pour des équipements et des formations pour une meilleure sécurité. Suivons.
Bonjour Momo.
Nafou, bonjour, comment tu vas?
Dis Momo, aujourd'hui tu ne viens pas, on va aller collecter des déchets plastiques?
Toujours à ramasser des trucs. Moi je te dis, on va finir par se transformer en tas de poubelles ambulantes dans tout ça là.
Hé Momo, tu es fou toi. Mais tu sais Momo, ce qu'on fait est un geste éco-citoyen. Hein? En ramassant ces déchets, on aide à préserver notre environnement, même si ça nous rapporte peu.
Sauver l'environnement, moi je sauve mon ventre d'abord.
Tu as raison, mais il faut qu'on pense aussi à notre santé. Il nous faut porter au moins des gants, des cache-nez, des chaussures de protection.
Santé, santé. Quelle santé? Moi, je m'en fous. Tant que je trouve de quoi manger, les gants et tout ça, c'est pour les riches, Nafou. Ça ne m'intéresse pas.
Non, Momo. Hey. C'est une nécessité. Regarde tes mains. Elles sont toutes noircies, incrustées de saleté. Avec le temps, ça peut te causer des infections, hein?
J'ai des mains solides, moi. Et puis, on ne va pas pleurer pour des petits microbes alors qu'on a faim tous les jours, non?
C'est vrai, Momo, je comprends. Mais imagine si tu tombes malade. Qui s'occupera de toi? Et si toi ou les autres personnes attrapent une infection grave, vous ne pourrez plus ramasser du tout, hein? En ce moment, peut-être que tu ne seras pas riche pour te prendre en charge correctement, hein?
Oui, tu as raison, ce n'est pas faux. Mais où veux-tu qu'on trouve l'argent des gants et autres?
Peut-être qu'on pourrait demander de l'aide aux autorités, à des associations ou à des particuliers. Si on avait des gants, des masques et même une petite formation, on pourrait travailler de manière plus sécurisée et professionnelle.
Une formation, c'est pour les gens éduqués, ça. Nous, on est juste des ramasseurs de sachets.
C'est justement pour ça, Momo. On pourrait apprendre à tirer plus efficacement, peut-être même trouver d'autres moyens de recycler nous-mêmes pour gagner un peu plus d'argent. Ça serait mieux que de se blesser ou de tomber malade en fouillant n'importe comment.
Tu penses vraiment que ça changerait quelque chose, toi?
Oui, Momo, je le pense réellement. On pourrait même se regrouper et faire entendre notre voix.
Eh bien, Nafou, t'as de la suite dans les idées.
Eh oui.
Écoute, je te soutiens. On va se regrouper et faire entendre notre voix, prendre soin de notre santé, réorganiser notre travail de façon professionnelle. Appelle-moi désormais le président de l'association des personnes déplacées internes, collecteurs de déchets plastiques. Yaman l'auto.
Merci là-bas.
Kibar utile.
Le tri des déchets ménagers permet aux structures à l'image de la coopérative Yambadé System de donner une nouvelle vie à certains déchets comme les plastiques. Créée en 2001, cette coopérative basée à Ouagadougou s'est donnée pour mission de lutter contre la pollution plastique en transformant ces déchets en meubles et en objets utiles. Daniel Koulibaly s'est entretenu avec le manager de la coopérative, Ali Dermé.
Bonjour Monsieur Dermé.
Bonjour Madame.
Vous avez créé des tables bancs scolaires avec des déchets plastique. En plus des tables que vous faites, quel autre produit vous créez avec les déchets plastiques?
Ce qu'on a aussi, les hors-sol, qui permettent de faire un peu voilà, de l'agriculture, ce soir même dans les ménages. Après ça, on a des pots de fleurs, des petits tabourets. L'un des produits aussi qui est vraiment phare, que la coopérative travaille vraiment pour mettre sur le marché, c'est la poubelle écolo de Yambadé, qui comprend 4 compartiments, qui permet de faire un peu le tri sélectif.
Quels sont les objectifs de la coopérative Yambadé?
L'objectif de la coopérative, d'abord, c'est déjà sur le côté environnement. Ça, c'est l'objectif principal, vraiment à ce que les sachets plastiques, on ne les voit plus dans notre environnement. D'où nos slogans, coopérative Yambadé égale à la victoire sur les sachets plastiques. Maintenant aussi, les objectifs vraiment dans le côté, c'est vraiment participer vraiment à l'offensive agricole. L'une des ressources les plus en plus rares au 21e siècle dans le monde, c'est l'eau. Donc aujourd'hui, pourtant, à travers l'agriculture ordinaire, ça consomme beaucoup d'eau. Donc vraiment, c'est de vulgariser vraiment l'agriculture hors sol à partir de la valorisation des déchets plastiques. Et en plus de ça aussi, comme je vais expliquer tout de suite, c'est arriver vraiment à ce que les poubelles aussi soient vulgarisées. Ça fait partie de nos objectifs.
Nous avons vu à l'extérieur des conteneurs de sachets plastiques. Comment est-ce que la collecte de déchets se fait?
Les femmes, ce sont les collectrices. On les forme, on les équipe, on les vaccine contre les vaccins anti-tétaniques et on dit les femmes, allez-y collecter. Là, en ce moment, et ça permet de créer des revenus pour les femmes. Ensuite, maintenant, on forme les jeunes qui vont s'occuper de la production.
Combien de tonnes par an vous collectez?
Au moins, on a 50 tonnes de déchets plastiques que nous collectons et chaque année pour notre production. Mais maintenant, ces dernières années, comme il dit, comme ça a baissé, parce que notre objectif, c'est vraiment collecter beaucoup de sachets plastiques, ne plus voir les sachets plastiques dans l'environnement. Mais, comme on dit, il faut que nous ayons aussi des débouchés. Et ces derniers temps, face à la crise, il n'y a plus de débouchés. Les jeunes qui ont diminué leurs commandes. Voilà, donc c'est ça.
Quel conseil vous avez à donner aux associations qui souhaitent recycler comme vous?
Bon, le conseil, vraiment, c'est de d'abord faire la chose par vocation, par amour. Parce que je pense depuis 2001, si on ne tenait pas à ça, on allait être découragé. Parce qu'aujourd'hui, chaque année que tu entends le budget et sur l'environnement qu'on vote, et puis vous êtes des acteurs directs dans le domaine, si tu n'as pas l'amour, par exemple, si tu n'es pas écolo, vraiment c'est un peu compliqué. De faire d'abord ceux qui veulent se lancer d'abord, de faire l'activité par amour. Il ne faut pas attendre que c'est une activité de business. C'est pas du business. Vraiment, aujourd'hui, je peux dire, nous n'avons pas un but lucratif. Pour ceux qui viennent pour un but lucratif, ils vont se désengager. Parce qu'à un moment donné, tu vas te retrouver pas de marché. Mais maintenant, si tu fais la chose par vocation, tu peux tomber sur des partenaires qui t'accompagnent. Aujourd'hui, je peux dire, les ventes que nous faisons ne nous permettent même pas de tenir le cap. Mais on a des partenaires qui nous encouragent dans le domaine. Vraiment, parce qu'ils savent que l'impact de notre activité dans l'environnement, l'impact est fort. Je le souhaite vraiment de faire la chose par amour. Et en plus aussi, il ne faudra pas faire des produits pour faire des produits. Je vais vous donner un exemple. On m'a posé la question, pourquoi vous ne faites pas du pavé? J'ai posé la même question. Le pavé et le table banc, lequel est le plus important? On m'a dit que le pavé n'est pas mal. J'ai dit non. Tu sais, prendre l'ennemi de l'environnement, les déchets plastiques, faire ça en produit qui va venir limiter la déforestation, parce que les tables bancs, c'est du bois. Pour avoir le bois, il faut abattre les arbres. Donc là, maintenant, il m'a dit, ok, effectivement, ce que vous faites, vous ne faites pas les choses par hasard. C'est-à-dire, il faut faire des produits qui vraiment qui participent à l'écologie. Donc c'est ça.
Récemment, l'association des importateurs de sachets plastiques et celle des recycleurs ont fait une conférence de presse pour demander au ministère de l'Environnement de revoir le projet de loi visant les sachets plastiques. Quel est votre avis par rapport à ça?
J'ai pris part lors des rencontres un peu au sein du ministère. J'ai dit au SG, monsieur le SG, s'il vous plaît, je suis pour l'interdiction des sachets plastiques, mais j'ai la solution. Arrêtez de commander les tables bancs en bois. Arrêtez de commander les tables bancs en bois. Et vous verrez, donnez-nous le marché. Vous allez voir ce que vous êtes en train de faire. Ça va finir. J'ai pris l'exemple. Il y a eu un temps, en 1990 à 1991, j'étais très jeune, des questions de ferraille. Le kilo, c'était à 5 francs. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir des fers dehors? Non. Si Yamadé, chaque année, peut avoir 10 000 tables bancs. Vous prenez au moins 30 kilos pour faire un table banc. Multiplié par 10 000, ça fait combien en bas de choses? On ne va même pas trouver le sachet. Et j'ai même dit, on oublie ceux qui sont des pollueurs comme pollueurs. On ne veut plus voir un sachet plastique de haut à terre. Et on vous dit, vous allez mettre des poubelles. Les sachets qu'ils vont collecter, ils n'ont qu'à donner aux différents structures qui sont dans le domaine. Moi, je propose, je fais des table bancs pour eux, ils vont donner à l'État. Moi, ils proposent des poubelles pour eux. Ils vont mettre partout en ville. Vous pensez que le problème va se produire? Donc, c'est la solution. Mais moi, je suis jeune, on ignore. Mais voilà, l'avenir, il est là.
Merci beaucoup, monsieur Dermi.
Merci beaucoup, madame.
Bonne arrivée.
La famille Ouattara, installée au secteur 9 de la ville de Banfora, a accueilli plus de 10 personnes déplacées internes. Certaines ont décidé d'exercer des métiers pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Elles se sentent si bien traitées dans leur famille d'accueil qu'elles hésitent à repartir dans leur village d'origine après le retour de la sécurité. Un reportage de Daboukoué Soumaïla Emma.
Coco, bonsoir. Nous sommes à Bounouna dans la famille Ouattara. Monsieur Ouattara Brahima, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Comment vous allez?
Oui, ça va bien.
Nous voyons que vous avez presque une dizaine de personnes chez vous.
Oui.
Comment ça se passe entre vous?
Comme vous venez de le dire, c'est des déplacés internes qui sont chez moi. Ils sont arrivés, nous sommes tous des humains. C'est une situation qui les a arrivés, qu'ils sont venus chez moi. Donc, je les ai pris comme des mamans, des frères, des sœurs. Et présentement, nous vivons en parfaite harmonie. Il n'y a pas de problème, ils se sentent chez eux. Jusqu'à l'heure, là, il n'y a pas de problème entre nous.
En cas de difficulté, comment vous arrivez à gérer?
En tout cas, les difficultés, il y en a assez, mais bon, à travers mes petits fonds, on arrive à se gérer. Puisque la maman aussi est arrivée avec les enfants, d'autres personnes sont également là, ils ne sont pas venus s'asseoir bras croisés. Se débrouillent à travers les petits travaux et on arrive à se comprendre.
Vraiment, merci beaucoup, monsieur Ouattara. Nous allons nous diriger vers la maman. Maman, bonsoir.
Bonsoir, mon fils.
Comment vous allez?
Je vais bien.
Maman Traoré, comment ça se passe entre vous?
Je peux dire que ça va, on se débrouille. Avant d'arriver ici, il y avait beaucoup de problèmes. Mais arrivés, nos autres nous ont bien accueillis. Ils sont comme mes enfants aussi. Malgré que j'ai amené des enfants, je ne peux pas dire que tout est sucré, quoi. Mais ça a un goût meilleur. Je suis arrivée, mais je ne suis pas assise comme ça. Je sais qu'une femme ne peut pas s'asseoir avec les bras croisés. Nous, les femmes, là, on aime travailler. On dirait qu'on a 1000 bras. On est ici, on est ici, on est ici. Donc, on se débrouille. Puisque j'ai réussi un travail comme technicien de surface. Que chaque matin, je vais nettoyer et on me donne un peu le matin. À partir de 9h, j'en ai fini. Je vais vaquer à autre chose encore. Je vais laver les habits pour avoir quelque chose pour nourrir mes enfants. Les enfants qui sont un peu âgés, eux aussi font quelque chose. Et c'est comme ça que si on se réunit là, on a de quoi manger. Pour le moment, je peux dire aussi que là où je suis là, je ne pense pas retourner. Puisque j'ai perdu mon mari à Mangoudara. Donc ce sont des pensées qui me mettent mal à l'heure. Et ça fait monter la tension. Donc je ne veux plus repartir. Les concerts sont repartis, les frères, ainsi de suite. Mais moi, je préfère rester pour un moment.
Ok, vous avez un message particulier?
Oui, tout ce que je peux dire, c'est remercier notre hôte qui a bien voulu que nous restions avec lui et que nous vivons en une parfaite harmonie. Et tous ceux qui sont ailleurs là, qu'ils respectent leurs hôtes là et qu'ils ne s'asseyent pas les bras croisés, qu'ils mènent quelque chose comme activité. Chaque fois sortir demander là, c'est pas bon.
Merci beaucoup, maman. Nous allons nous diriger vers Monsieur Koné. Monsieur Koné, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Comment vous allez?
Oui, je vais bien.
Depuis que vous êtes arrivé dans la famille Ouattara,
oui.
Vous avez quitté Mitiredougou.
Oui.
Faute d'insécurité.
Oui.
Comment est votre intégration?
Ici, ça va beaucoup. Quand on est arrivé, bon, il y a des sécurités et puis les bailleurs aussi nous a accueillis bien. Quant à moi, ça va beaucoup même.
Dieu merci. Mais oui. Vous faites quoi concrètement comme activité pour pouvoir survenir à vos petits besoins ainsi que la charge de la famille qui est sur vous?
Moi, je suis un véhicule pour l'apprentissage. Bon, ça va même. Puis je gagne un peu aussi, ça va.
Merci beaucoup.
Merci, grand frère. Okay.
Traoré Tché, comment vous allez?
Oui, je vais bien chez vous.
Ça va également.
Dieu merci.
La maman vient de parler tout de suite.
Ouais.
Comment ça se passe?
Bon, faut dire que c'est pas simple. Mais dans la vie, il y a des situations. Quand ça arrive, il faut assumer. C'est vrai, nous sommes venus de Mangoudara. On a tout perdu. Donc, pour reprendre la vie à zéro, c'est pas simple. Mais ici, dans la famille Ouattara, ils essaient de faire tout ce qu'ils peuvent. On est logé ici, mais on n'est pas aussi resté bras croisés. On essaie aussi de faire quelque chose pour subvenir à nos besoins. Non, c'est pas simple.
Mais vous faites quoi concrètement comme activité pour pouvoir subvenir à vos besoins ainsi que la prise en charge de la maman et de tes frères?
Moi, je suis commerçant. Je prends des habits et puis je revends. Je promène avec ça un peu. Par la grâce de Dieu, en tout cas, ça va un peu.
Merci beaucoup.
Merci.
Monsieur Ouattara, oui? Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre relation?
Actuellement, vous avez entendu ce qu'ils viennent de dire à travers leurs propos. Je suis vraiment fier d'eux. Ils ont dit ce qu'ils font. La relation qui existe entre nous dans la cour, je rends grâce à Dieu. Je pense que ça va. Ça va. Donc, c'est des gens, on arrive à vivre ensemble, on se comprend. Voilà. Souvent, tu viens nous trouver dans la cour, tu ne peux même pas savoir que c'est des déplacés internes. Tellement qu'on s'entend bien, on arrive à se comprendre. Voilà.
Merci beaucoup, monsieur.
Voilà, merci beaucoup. Je vous en prie.
Aujourd'hui, Musique Live reçoit pour vous un historien, un archéologue et l'auteur de la chanson Kalougdé, cette chanson tant aimée par les mélomanes burkinabés. Il est originaire de la province du Ganzougou, plus précisément de la commune de Boudry. Il s'agit bien sûr d'Ousmane Compaoré, l'état civil, et son nom de scène, c'est Ousmane. Bonjour et bienvenue, Ousmane.
Bonjour.
Comment vous allez?
Je vais bien, chez vous.
Dieu merci également, je vais bien. Votre passion pour la musique, comment est-ce que est née cette passion?
Ok, je pense que c'est depuis ma tendre enfance. Quand j'étais tout petit, j'étais dans la danse. Et partout, en tout cas, et surtout dans les nuits culturelles, voilà, de ma province, dans le Ganzougou.
Dans le Ganzougou.
Voilà, j'étais sollicité. Un peu partout, par les mélomanes, voilà, on a abusé en ce moment et on m'appelait Kilabongo.
Kilabongo.
Voilà, Kilabongo, c'est...
Donc c'est Kilabongo, voilà, reconverti, voilà,
reconverti en Ousmane. Okay. Pour rester quand même moi-même.
Ok. Voilà. À présent, nous allons vous accorder un temps pour la prestation de ce fameux titre Kalougdé, aimé par Tom Kalougdé.
On ne bouge pas en
français. On ne bouge pas en français.
Le peuple burkinabé
ne bouge pas.
Sera toujours en tout cas.
Merci. Top, c'est parti pour Kalougdé.
I'ma hit it low, let it kinda low, yeah. Did this way, but then I let her come and hear all the lay. Somewhere we can fire, don't know, so in now. Don't look at loaded. Don't look at loaded. Don't look at loaded. Don't look at loaded, yeah. Parabens in Yavada, Balavoka City, come and kin me, sorry, Balavoka right away. Ninkim gang gawane la kayete apoyang surungete tanintam wada karse la kom san wataren yoga si abumalwe suka venom san lewa kenye yazigen sore burkima gwem kaye irikta uyabara.
Félicitations, Ousmane, pour ce titre Ton Laka Lourdi. D'où est venue cette inspiration?
L'inspiration, je pense qu'elle est naturelle.
Elle est naturelle.
Je dirais même divine.
Ok.
Voilà, parce que je ne savais pas que je pouvais faire ça. Voilà, donc je chantais, mais je ne pensais pas à l'idée de l'insécurité.
C'est un succès.
Voilà, donc, mais il y a eu quelques reproches, quelques fans qui m'ont écrit sur les réseaux sociaux. Okay. Mais Ousmane, ça peut être une ouverture pour toi.
Ok.
Voilà, de faire quand même un truc pour la situation actuelle.
Et vous avez saisi l'occasion.
Voilà, j'ai saisi l'occasion en développant en tout cas le thème. Et voilà, aujourd'hui, Kalougdé est devenu un hit pour tous les Burkinabés.
Avant de se quitter, Ousmane, vous connaissez certes l'actualité du pays.
Justement.
Au-delà de cette chanson qui réconforte les cœurs, quel message pour ces déplacés, mais aussi à côté d'eux, il y a ces populations autres qui les ont accueillis?
Je tiens à dire au peuple burkinabé que notre résilience, notre union sont très puissantes que jamais. Il faut que nous encourageons, il faut qu'on s'entraide. S'il n'y a pas une compréhension, ça peut quand même créer une fissuration encore. Il ne faut pas créer une guerre dans une guerre. Donc je tiens quand même à encourager ces personnes déplacées là, dans leurs zones respectives actuellement. Et je demande au peuple burkinabé de se soutenir mutuellement. C'est pas parce ce que l'autre a quitté ce soir pour se retrouver dans l'eau, que quand même on va le manquer de respect ou quoi, parce qu'on n'en sait jamais. Voilà, comme on le dit en Moré, bon vent à tout le monde et courage au peuple déplacé.
Merci
voilà.
Infiniment Ousmane pour ce message et aussi l'appel à l'union et à l'entraide entre Burkinabé. Voilà. C'est ici que prendra fin notre entretien et nous prions Dieu qu'il vous accompagne dans votre carrière de musicien et aussi qu'il fasse régner la paix au Burkina Faso.
Amen, amen. C'est tout notre souhait.
Merci bien.
Et merci beaucoup studio Yafa.
Merci.
Tono calore, tono calore, tono calore, yeah.
Fin de cette belle aventure et de temps de partage. Rendez-vous est pris pour samedi prochain sur cette même fréquence, le studio Yafa. Yafa chez vous, la paix chez vous, le aimé des aimés, aimé partagé vous dit merci et vous souhaite de passer un excellent week-end.